won't you tell me now? What you say, hey? Oh, what a walk, oh, a honking belly. Whoa, whoa, whoa. Who asks me that from me old time granny? Hey, hey, hey. But grandma, I am young. You better have sympathy. So it would be better if you asked my mommy.
Sur lepetitjournal.com en partenariat avec France Média Monde.
Merci d'écouter RFI, les 7h à Paris, 8h à Beyrouth. Bonjour Martin Guèze.
Bonjour André Mélard, bonjour à toutes et à tous.
Cinquième jour de guerre au Moyen-Orient et un double front en Iran et au Liban.
Le Liban désormais complètement plongé dans le conflit depuis que le Hezbollah a lancé sa première offensive ce lundi. La riposte israélienne est d'ampleur. 11 morts cette nuit à Beyrouth et à Baalbek, mais aussi des dizaines de milliers de déplacés. Avec un sentiment amer, celui que la guerre aurait pu être évitée. Nous serons dans la capitale libanaise et nous serons aussi dans ce journal en direct de Jérusalem, alors qu'Israël intensifie son offensive dans les airs comme au sol au Liban. Israël qui redoute par ailleurs une saturation de son espace aérien. C'est dans ce contexte que s'exprimait hier le président français Emmanuel Macron, qui a rejeté la faute de la guerre sur l'Iran tout en essayant de rassurer ses concitoyens. Et puis loin du Moyen-Orient, nous serons également dans ce journal à Katmandou. Le Népal se prépare pour des élections législatives cruciales, 6 mois après une révolte de la jeunesse réprimée dans le sang par les autorités. Et puis enfin, nous serons à Barcelone, en Catalogne, où le salon de la téléphonie mobile se met au swahili. Vous l'entendrez.
Le Moyen-Orient à la croisée des fronts en Iran, mais aussi désormais quotidiennement au Liban.
Et ces bilans alarmants, 58 000 déplacés en 2 jours et le nombre de morts qui ne cesse d'augmenter, 52 hier, déjà 11 ce matin, 6 dans la banlieue de Beyrouth, 5 à Baalbek dans l'est du Liban, tués dans des bombardements israéliens. L'État hébreu a appelé dans la nuit les habitants de 16 villes et villages du sud du Liban à évacuer, leur lançant un avertissement urgent avant des frappes contre les forces du Hezbollah. Un scénario déjà vécu par la population libanaise. Une impression de déjà-vu, un sentiment de lassitude et surtout cette pensée pour les déplacés, celle que cette guerre aurait pu être évitée pour leur pays. Des déplacés qu'a rencontré notre correspondante Sophie Guignon.
À Beyrouth, au pied d'un hôtel de Hamra, une poignée d'hommes font passer le temps en fumant la narguilée. Pour eux, l'assassinat du guide suprême iranien dans les bombardements américano-israéliens justifiait l'entrée en guerre du Hezbollah.
Vous accepteriez que le pape se fasse tuer comme Khamenei? Vous accepteriez? Nous, non. C'est notre leader.
Mais pour d'autres, ce second exil en à peine 2 ans est la goutte qui fait déborder le vase. Radha Zamat vient d'arriver de Tyr au sud du Liban.
Je ne veux plus de guerre, ça suffit, on en a eu assez. On est très fatigués, nos enfants sont fatigués, je veux rentrer chez moi.
Pour Hassan Badawi, médecin et déplacé, lui aussi, cette nouvelle guerre aurait pu être évitée.
C'est un jeu dangereux parce que Israël attend la moindre étincelle pour frapper. Elle veut des excuses pour venir frapper le Hezbollah. Et ils ont donné une excuse à Israël d'attaquer le Liban. C'était une erreur parce que les roquettes qu'ils ont envoyées n'ont pas de goût. Ils n'ont rien fait à Israël. Une guerre que le Hezbollah pouvait éviter, ne pas lancer des roquettes, laisser l'Iran s'expliquer avec Israël et attendre.
Pour ces déplacés, l'avenir reste incertain. Sophie Guignon, Beyrouth RFI.
Un avenir incertain, d'autant que l'État hébreu ne compte pas baisser en intensité face au Hezbollah. Et on est en ligne de Jérusalem avec notre correspondant Michel Paul. Michel, l'étau israélien se resserre sur son voisin libanais, que cela soit dans les airs ou que cela soit au sol.
Oui, alors Israël a saisi au bon l'entrée en jeu du Hezbollah pour déclencher une riposte attendue de longue date. L'objectif n'est plus seulement de répondre aux tirs, eh bien, de remodeler physiquement la frontière par la création d'une zone tampon. Sur le terrain, les troupes d'élite ont pris position sur les hauteurs stratégiques au-delà de la ligne bleue. La doctrine a changé, l'armée ne frappe plus uniquement les combattants, mais bien l'ensemble de l'écosystème du groupe chiite. Contrairement à ce qui s'était passé au lendemain du 7 octobre 2023, Israël n'a pas l'intention cette fois d'évacuer sa propre population civile des localités frontières avec le Liban. L'idée, selon les responsables militaires ici, est de briser la capacité de tir direct et d'infiltration du Hezbollah.
Alors on le voit, Israël à l'offensive au Liban, à l'offensive en Iran, mais sur la défensive aussi, car Téhéran et le Hezbollah tentent de saturer l'espace aérien israélien.
Oui, on ne parle plus de tir isolé, mais bien de stratégie de saturation. On l'a vu ce matin encore ici. L'inquiétude majeure de l'état-major israélien réside dans la synchronisation parfaite de salves massives, dénuées de drones lents et de roquettes lancées depuis le Liban pour occuper les radars, combinés simultanément à des tirs de missiles balistiques hyper rapides venus directement d'Iran. L'objectif est simple, submerger les batteries de défense par le nombre. Et le porte-parole de l'armée, ici, a douché les attentes des Israéliens. Le nouveau système laser Iron Beam n'est pas encore opérationnel, a-t-il affirmé.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem sur RFI. Israël qui a par ailleurs annoncé avoir lancé une large vague de nouvelles frappes sur l'Iran, visant des sites de lancement de missiles, des systèmes de défense aérienne et des infrastructures énergétiques. L'institution chargée d'élire un nouveau guide suprême a également été visée. Et les États-Unis affirment avoir frappé près de 2000 cibles stratégiques depuis le début de l'offensive samedi. Une guerre qui a fait au moins 787 morts en 4 jours, d'après le Croissant Rouge iranien.
Une guerre, Martin, qui concerne aussi désormais les Européens.
Et Londres qui envoie un navire de guerre et des moyens anti-drones pour protéger les bases britanniques à Chypre. Des bases touchées par des drones iraniens au premier jour du conflit. Le président français Emmanuel Macron s'est lui exprimé hier lors d'une courte allocution à la télévision. Et Paris a annoncé envoyer au Moyen-Orient des renforts militaires, dont le porte-avions Charles de Gaulle et des avions Rafale. Emmanuel Macron qui a aussi voulu se montrer rassurant auprès de ses compatriotes et qui a précisé la position de la France. Valérie Gasse.
D'abord, expliquer les raisons du conflit, c'est par là qu'Emmanuel Macron a commencé.
La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation.
Pointer la responsabilité de l'Iran, mais en réprouvant la méthode, les frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël.
Conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver.
Tout en se satisfaisant de l'élimination de l'ayatollah Khamenei.
L'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple.
Emmanuel Macron a ainsi tenté de résumer la position d'équilibre libre de la France, puis de rassurer notamment sur le sort des Français coincés dans la région.
Nous sommes en train d'organiser en bon ordre le rapatriement de nos concitoyens qui le souhaitent.
Encore une fois dans une posture protectrice et déterminée, Emmanuel Macron a préparé ses concitoyens à un conflit qui pourrait durer, en annonçant par exemple le renforcement des moyens militaires dans la zone.
J'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle fasse route vers la Méditerranée.
Et puis Emmanuel Macron a rappelé qu'au Moyen-Orient, la France a un rôle à jouer aux côtés de ses partenaires, avec un mot-clé très important pour le président, puissance.
La France demeure une puissance attachée à la paix, fiable et déterminée.
Même si les États-Unis et Israël n'ont pas pris la peine de prévenir Emmanuel Macron de leur opération, le chef de l'État entend toujours essayer de peser.
Et un premier avion affrété par la France est revenu d'Oman cette nuit, avec à son bord une centaine de passagers prioritaires. Toutes les actualités, les derniers développements liés à la guerre au Moyen-Orient sont à retrouver sur RFI.fr. Rendez-vous sur notre fil d'infos en direct, avec notamment à la une cette déclaration des gardiens de la Révolution iranienne qui affirme avoir le contrôle total du détroit d'Ormuz. Hier, Donald Trump avait assuré que la marine américaine pouvait escorter si nécessaire des pétroliers à travers ce détroit.
RFI 8h07 à Kigali. On revient ce matin, Martin, sur les sanctions annoncées par les États-Unis contre l'armée rwandaise.
Annonce faite lundi et qui concerne notamment 4 hauts responsables rwandais, en cause leur soutien à la FCM-23 dans l'est de la RDC, ce qui est en violation des accords de Washington signés en décembre dernier. Des sanctions qui ne sont pas une première, loin de là, Patient Ligodi.
Ces sanctions s'inscrivent dans une séquence plus longue. Depuis la résurgence du M23 en 2022, Washington a progressivement durci les tons. En septembre 2023, le Rwanda est inscrit sur la liste du Child Soldiers Prevention Act, la loi américaine sur la prévention des enfants soldats, une mesure qui limite l'aide militaire et les ventes d'équipements. En février 2025, une sanction plus retentissante vise James Kabarebe, ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, ministre de la coopération régionale, au moment de sanctions. L'Union européenne adopte ensuite des mesures similaires, ciblant à son tour pour certains dirigeants. À chaque désignation, Kigali dénonce et renvoie, dit-il, Kinshasa à ses responsabilités, évoquant les soutiens au FDLR et s'appuyant sur certains rapports onusiens. Il soutient aussi que la FCM-23 est autonome. Pour autant, les sanctions n'ont pas fait taire les armes. Les jours même des dernières désignations, la FCM-23 revendiquait des attaques de drones contre l'aéroport de Kisangani. Ces nouvelles mesures marqueront-elles un tournant? Permettront-elles de relancer le processus de Washington et des Doha? La réponse dépendra de la dynamique diplomatique que pourra engager Washington et de la position qu'il choisira Kigali, mais aussi du rapport de force sur le terrain où la FCM-23 affronte l'armée congolaise.
Des sanctions américaines sur lesquelles nous reviendrons également avec Thierry Vircoulon, chercheur à l'Institut français des relations internationales.
Entretien à suivre à 7h50 heure de Paris, et on en parle aussi dans notre revue de presse africaine dans une demi-heure. RFI est aussi ce matin à Katmandou, à la veille d'élections législatives cruciales.
Ah oui, le Népal face aux urnes, alors qu'il y a à peine 6 mois, le Parlement du pays était en feu et le gouvernement balayé par un soulèvement éclair de la Gen Z, une jeunesse qui s'était opposée à la corruption généralisée, à la censure des réseaux sociaux. Une opposition coûteuse, la police avait réprimé dans le sang ce mouvement, faisant au moins 19 morts. Notre envoyé spécial Nicolas Roca a rencontré la mère d'un jeune manifestant tué pour obtenir justice. Elle a justement décidé de se lancer dans l'arène politique.
À peine entrée dans son appartement, les yeux de Rachana Katiwada s'emplissent de larmes, sa voix ne peut s'empêcher de se briser. Au mur, sur les tables, trônent des photos de son fils Rachik, mort à 22 ans le 8 septembre au pic des manifestations.
Mon fils n'était pas armé, il avait une pancarte qui disait « Nous voulons des leaders, pas des pillards, pas des corrompus ». On lui a tiré 2 balles dessus, une à la poitrine, une autre à l'abdomen.
Est-ce qu'il y a eu une forme de justice, une forme d'enquête?
La commission d'enquête nous a invités à témoigner, on l'a fait, mais maintenant elle nous doit la vérité et on attend encore. Je suis en colère contre l'ex-premier ministre KP Oli. Quand les corps étaient à la morgue, plutôt que de venir nous voir, nous, les familles, nous présenter ses condoléances, il a préféré dire que tous les manifestants étaient des terroristes.
Un ancien premier ministre poussé à la démission, mais qui se présente quand même lors de ce scrutin, tout comme Rachana Katiwada, qui a décidé de rejoindre la liste de Balendra Shah pour devenir députée. Elle considère que cet ex-rappeur de 35 ans, ancien maire de Katmandou, porte les valeurs du mouvement de la génération Z.
Je ne voulais pas devenir politicienne, mais cela a changé une fois que mon fils est devenu un martyr. Et je sais très bien pourquoi il allait manifester. Pour une bonne gouvernance, pour une vraie lutte anticorruption et pour des opportunités professionnelles.
Nicolas Roca, Katmandou, RFI.
Et le Népal, où 19 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour ces élections législatives. On y reviendra évidemment sur RFI.
Enfin, le plus grand salon du monde de la téléphonie mobile se met au Swahili.
Cela se passe au 20e salon de Barcelone, au pavillon africain. Jusqu'ici, les intelligences artificielles pullulaient dans toutes les langues, mais pas en Swahili. C'est désormais chose faite à l'initiative d'une collaboration entre les principaux opérateurs africains. Élise Gazangel.
Créer une intelligence artificielle en Swahili est plus difficile qu'en anglais, principalement parce qu'il y a moins de données disponibles. Mais impossible n'est pas africain. L'IA parle désormais Swahili. Kamule Okafor de GSM Africa dirige cette initiative.
Il existe de nombreuses opportunités dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et des services financiers pour élargir et accélérer l'adoption des technologies grâce à une IA qui parle ces langues.
Un Swahili open source model.
L'enjeu est aussi culturel, comme l'explique Jérôme Albou d'Axian Telecom.
Un des soucis qu'il y a, c'est vraiment que les modèles internationaux sont parfois un peu biaisés sur ce qui se passe aux États-Unis, en Europe ou en Chine. Et donc, on essaie d'entraîner nos modèles avec le contenu africain pour être certain de répondre aux besoins des populations locales.
Pour l'instant, uniquement à l'écrit, elle sera disponible très prochainement à l'oral.
Et au final, la voix sera vraiment un vrai changement pour pouvoir adresser les populations qui ne savent pas lire, mais qui parlent le Swahili. Et ça permettra d'attaquer aussi les autres langues africaines qui sont très orales et pas forcément écrites.
Africa must help shape its own AI future.
L'Afrique compte plus de 2000 langues, dont moins de 3% sont présentes sur l'intelligence artificielle. Élise Gazangel, Mobile World Congress de Barcelone, RFI.
Et RFI aussi parle Swahili. Tous nos contenus sont à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre application RFI Pure Radio. On va devoir s'y mettre, Andréane.
Oui, on reparle aussi téléphonie mobile dans Aujourd'hui l'économie, hein, dans un instant, avec le groupe chinois Xiaomi qui s'en sort bien sur le marché. Vous l'entendrez d'abord dans 5 minutes. Notre journal des sports, tout de suite, pardon. Et puis juste après, notre invité, l'auteur Yasmina Kadra, dans nos studios ce matin. Allez, on remet les choses dans l'ordre. Le journal des sports tout de suite, salut Diouf, vous êtes avec nous pour parler de foot, direction l'Espagne. On était à deux doigts d'assister à une remontada.
Et c'est pourtant le spécialiste du genre, mais ça n'est pas passé cette fois-ci. Le FC Barcelone a battu l'Atlético Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi, 3-0. Mais cela n'a pas suffi pour les Catalans puisqu'ils se sont inclinés 4-0 au match aller il y a quelques jours. Pas de finale donc pour les coéquipiers de Lamine Yamal. L'Atlético Madrid affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale, soit la Real Sociedad, soit l'Athletic Bilbao.
Football, toujours mais en France cette fois. Strasbourg va jouer le dernier carré de la Coupe de France.
Et les Alsaciens s'en sortent dans la douleur face à Reims, 2-1, avec deux pénaltys arrachés au moins de 5 minutes. Pour sa première titularisation avec Strasbourg, le jeune espoir marocain Jessim Yassine, champion du monde avec les Lionceaux de l'Atlas cet été, a livré une prestation plus que convaincante en jouant les 90 minutes de la rencontre, ce qui pourrait lui servir à l'avenir, notamment en championnat où l'ailier droit ne comptabilise qu'une trentaine de minutes de temps de jeu.
Et c'est le travail, ben, il est récompensé. Je travaille la semaine, j'essaye de gratter des minutes en Ligue 1. Et après, ben, en Coupe de France, le coach il a décidé de me mettre. Et comme je pense que je travaille bien à l'entraînement, il m'a récompensé et ça a marché. J'ai été insouciant, j'ai pris du plaisir, j'ai joué mon foot et ça a marché. Franchement, c'est quelque chose de bien parce que, comme on peut dire, j'ai gratté un peu de points pour essayer de un peu plus jouer. Après, on verra, je continue à travailler et on verra ce que ça va donner par la suite.
Et c'était pas cet été, la Coupe du Monde U20 du Maroc, c'était en décembre dernier.
Il y a deux autres quarts de finale qui vont se jouer aujourd'hui, Saliou.
Oui, Nice se déplace sur la pelouse de Lorient, coup d'envoi 19h30, temps universel, et l'OM reçoit Toulouse au Vélodrome, l'occasion de confirmer l'élan constaté lors de leur victoire face à leur rival lyonnais dimanche soir en Ligue 1. Les Marseillais se sont imposés après avoir été menés à deux reprises pour la deuxième d'Habib Bey sur le banc olympien. Écoutez le milieu de terrain international centrafricain Geoffrey Kondogbia au sujet de son nouvel entraîneur.
Naturellement, on a retrouvé un peu le sourire après les résultats difficiles qu'on avait eus. Et on sait que c'est qu'une étape et c'est déjà derrière nous et on est déjà tourné vers l'avenir. Moi, le coach, je pense que vous connaissez aussi autant que moi. C'est quelqu'un déjà qui connaît très très bien ce club. On le ressent déjà nous au niveau des entraînements, au niveau de ses approches. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un peu tôt pour pouvoir évaluer ou mettre des mots sur le coach. Mais en tout cas, nous, on est content de. En tout cas, moi, personnellement, je suis content de travailler aussi avec le coach et j'espère qu'on pourra faire de grandes choses ensemble.
Marseille-Toulouse, coup d'envoi 20h, temps universel.
On termine avec le basket et ça se passe toujours aussi bien pour Victor Wembanyama en NBA.
Oui, le joueur des Spurs vient d'être élu joueur de la Conférence Ouest pour le mois de février. C'est la première fois qu'il reçoit cette récompense depuis qu'il a rejoint les États-Unis et c'est le deuxième Français de l'histoire à avoir cette distinction après Tony Parker.
Salut Diouf, merci.
RFI Matin.
Et bonjour Stéphane Geneste.
Bonjour Andréane.
Alors je le disais dans Aujourd'hui l'économie ce matin, on parle de ce Mobile World Congress à Barcelone en Espagne, le plus grand rendez-vous mondial de la téléphonie mobile. Alors pourquoi on en parle ? Eh bien parce que sans trop me tromper, je peux assurer que nous possédons toutes et tous un smartphone et donc le marché est entré dans une phase de maturité, Stéphane, sa croissance ralentit. Toutefois, un groupe tire son épingle du jeu, le chinois Xiaomi.
Oui, Xiaomi, que vous connaissez évidemment sous l'écriture Xiaomi, c'est un géant de la téléphonie mobile. C'est simple, l'entreprise avec environ 13% des ventes mondiales est aujourd'hui sur la troisième marche du podium des constructeurs au monde, juste derrière Apple et Samsung qui contrôlent chacun environ 20% de ses ventes tout autour de la planète. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une entreprise chinoise occupe une place si importante sur ce marché. On se souvient évidemment de Huawei qui avait brièvement dépassé Apple et Samsung début 2020. Mais voilà, le groupe a été freiné par les sanctions américaines qui l'ont privé d'Android et des services Google. Huawei s'est effondré et Xiaomi a tiré son épingle du jeu.
Et donc, comment a fait le groupe pour talonner à ce point les deux grands géants du smartphone ?
Alors déjà, c'est l'internationalisation. À partir à l'assaut des marchés étrangers, c'est la clé du succès de Xiaomi. Il s'implante en Asie du Sud-Est, en Inde, en Amérique latine et bien sûr en Europe, où il est numéro 3 depuis maintenant 6 ans. Sur certains trimestres, il lui arrive même de dépasser Apple, notamment lorsque la marque à la pomme est entre deux cycles de lancement d'iPhone. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'Apple est en difficulté, ça veut juste dire que Xiaomi est capable de capter une partie de la demande, ce qui est une force à part entière, car être un substitut à un produit très référencé, très connu dans un marché où le consommateur compare et cherche le meilleur rapport qualité-prix. C'est un vrai atout.
Et Xiaomi n'a pas fait la même erreur que Huawei puisque le groupe n'est pratiquement pas présent aux États-Unis.
Exactement, hein. Contrairement à Apple et à Samsung, il est quasi absent du marché américain. Ça en dit long hein, sur son réservoir de croissance. Mais la force de l'entreprise, c'est donc son rapport qualité-prix. Historiquement, les smartphones produits par Xiaomi étaient vendus autour de 200$, l'équivalent d'un milieu de gamme de Samsung. Les deux se disputent ce créneau et le Chinois ne veut plus se contenter de cette position.
Puisqu'en voulant aller sur le haut de gamme, Xiaomi va devoir nécessairement augmenter ses prix.
Et donc être encore plus rentable, car sur ce créneau du haut de gamme, les marges sont bien plus élevées. Hein. D'ailleurs, l'entreprise l'a montré lors du sommet mondial à Barcelone. Elle est capable de proposer des produits de ce type-là avec des technologies dernier cri et surtout 6 années promises de mise à jour logicielle. Car ce qu'il faut bien avoir en tête, Andréane, c'est qu'elle a toutes les clés pour le faire. Déjà, le savoir-faire. Ensuite, les compétences techniques et technologiques, mais aussi les matériaux. À cela, vous ajoutez tout un écosystème Xiaomi avec des montres, des bracelets connectés, des téléviseurs, des trottinettes électriques, des réfrigérateurs et même des voitures. En fait, on peut comparer cette stratégie à celle de BYD qui tient tête à l'américain Tesla en restant le premier constructeur au monde de voitures électriques. Puisqu'aujourd'hui, c'est le principal atout du groupe, Xiaomi a tous les arguments pour dépasser les leaders en combinant innovation technologique et maîtrise des coûts.
Stéphane Genest pour aujourd'hui l'économie. 7h20 à Paris, on passe à notre invité. Dans nos studios ce matin, face à Arnaud Pontus, Yasmina Kadra, écrivain, auteur entre autres du livre Le Prieur de Bethléem. C'est publié chez Flammarion.
Bonjour Yasmina Kadra.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous accueillir sur RFI.
Merci beaucoup.
Le jour même de la sortie de votre nouveau roman, Le Prieur de Bethléem, la réalité, la brutalité du monde irriguent vos livres. Alors avant de parler de ce livre, j'ai envie de vous demander en quelques mots comment vous vivez, comment vous percevez cette guerre qui fait la une de l'actualité depuis quelques jours, la guerre au Proche-Orient, en Iran, au Liban, en Israël.
De la même façon, c'est un déjà-vu.
C'est un déjà-vu.
C'est un regrettable déjà-vu. Et puis, ce qui me préoccupe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de code, il n'y a plus de repères, il n'y a plus... C'est-à-dire, avec un UBU à la Maison-Blanche... le droit international, la diplomatie, enfin tout ce qui faisait plus ou moins, qui ralentissait un petit peu les décisions expéditives, tout ça a sauté hein, avec UBU, avec Trump. Et c'est très très dangereux ce qui arrive au monde aujourd'hui.
Le monde est encore plus dangereux qu'hier.
Oui, oui, mais moi je pense beaucoup à nos enfants et aux enfants de demain, qu'est-ce qu'on va laisser... Que va-t-on leur laisser comme monde au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les nations traumatisées, c'était écrié plus jamais ça, mais 5 ans après, les guerres ont repris. Et ce qui est encore plus dérangeant, c'est que les consciences se taisent, les peuples rétrécissent et se verrouillent dans une sorte de silence presque mortel.
Les consciences se taisent, dites-vous, Yasmina Kadra. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de réaction à cette façon dont les affaires du monde tournent aujourd'hui?
Oui, peut-être parce qu'il n'y a plus de grands hommes et de grandes femmes d'État aujourd'hui. Le monde, il est gouverné par des opportunistes, par des carriéristes. Il n'y a pas une grande vision du monde aujourd'hui, à part celle du chaos.
Le chaos. Quel est votre rapport à l'actualité du monde, Yasmina Kadra? Au quotidien, vous suivez ou vous essayez de vous détacher de tous ces tourments?
On ne peut pas se détacher quand on a connu aussi ces atrocités.
Oui, je vais rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, que vous avez été officier dans l'armée algérienne pendant 25 ans.
Il ne faut
vous
pas
avez...
le rappeler trop souvent parce que les gens ils disent « Mais que fout un officier dans la littérature ?»
Il a bien le droit. Il écrit.
Dans son déraco aussi, que vous savez, beaucoup de mes lecteurs me disent il ne faut pas les laisser vous présenter comme un ancien militaire, parce qu'avant, on ne voyait pas comment accéder à vos livres. C'est-à-dire pour nous, ça ne nous intéressait pas. Et puis c'est la maman, c'est l'épouse qui les a obligés un jour à ouvrir mes livres. Et c'est comme ça que Ils m'ont découvert.
Bon, alors, on ne dit rien de votre passé militaire
non,
ce matin.
Non, c'est pas grave, non. Mais...
Oui, juste, oui. Juste par parenthèse. Ouais, l'actualité de la violence au Proche-Orient, évidemment, au cœur de votre dernier roman, Le Prieur de Bethléem.
Mais la violence n'est pas au Proche-Orient, elle est dans les esprits.
Oui, bien
elle
sûr.
Elle est dans les esprits, elle est dans cette volonté de tout dominer, de tout... Voilà, c'est l'impunité totale. Vous savez, quand on adjoint le pouvoir et l'impunité, on est tout de suite dans la dictature et nous sommes en train de voir aujourd'hui un homme qui se conduit comme le dictateur planétaire.
L'histoire de votre livre se déroule pour une large part en Palestine, pays en larmes et en sang, écrivez-vous. Ouais. Comment il est né ce roman, Yasmina Kadra?
Il est né bien avant le Covid. J'avais déjà écrit quelques chapitres, mais dans les salons, quand j'ai rencontré des éditeurs, et je parlais de ce projet-là, ça, les gens étaient assez rétifs. Hein, et ils étaient réticents. Et disaient encore un livre comme ça. Et puis, un jour, j'ai rencontré une dame, comme toujours, ce sont toujours les femmes qui ont le courage de prendre les grandes décisions. Elle m'a dit, moi, je prends. Dès que j'ai lu les premières pages du premier chapitre, elle était partie. Elle dit, moi, je prends ce livre, tout de suite. J'ai dit, vous êtes sûr? Elle dit, oui. Alors, en 40 jours, c'est terminé.
40 jours d'écriture.
Ouais, ouais.
C'est une...
Mais 40 jours d'écriture intense.
Intense.
Oui.
En transe, me disiez-vous,
oui,
même avant trans. D'entrer dans ce
oui,
studio.
Oui, oui, absolument. Et c'était comme si j'étais touché par une grâce divine.
Et c'est comme ça que vous écrivez.
Ouais.
Ça vous est venu comme une fulgurance, en quelque sorte.
Non, mais le livre, il était dans ma tête depuis toujours.
Oui.
Hein. Sauf que je l'ai un petit peu réactualisé avec les événements du 7 octobre 2023.
Oui, parce qu'on sent quand même que c'est un livre post-7 octobre 2023. Que
ouais.
C'est un peu peut-être la réponse du romancier à ce qui s'est passé à Gaza, notamment.
Oui, absolument. Oui. On peut pas se taire quand on voit une telle tragédie, quand on voit une telle injustice, et puis ce qui était c'est ce silence abyssal, mortel des consciences. Et il y a aussi une forme de complicité qui est aussi assez violente, puisqu'on a même, à un certain moment, on n'avait même pas le droit de s'indigner, d'avoir de l'empathie pour des enfants qui sont en train de mourir, pour des familles qui sont décimées. Ça, c'est... Quelle que soit la brutalité du monde, lorsqu'un poète ou une conscience réagit, on garde espoir. Mais quand il y a le silence...
Silence, c'est quelque chose qui vous choque dans le monde d'aujourd'hui.
Ah oui, on n'a pas le droit de se taire.
Oui.
Jamais.
Le prieur de Bethléem, c'est Waïd, orphelin de père et de mère, recueilli par son oncle qui va vivre avec ses cousins. Je ne veux surtout pas trop en raconter sur l'histoire.
Mmh.
Je veux laisser aux lecteurs et à ceux qui
mais
nous écoutent
le plaisir. Dans ce roman, il y a deux romans. Hein.
Oui, il y a deux romans,
oui.
Exactement. Il y a le roman, il y a l'histoire que Waïd a lui-même écrit, qu'il soumet à un éditeur, en quelque sorte. Les choses se croisent. Et il y a donc un roman qui est au milieu du roman.
Oui,
et c'est le récit de sa jeunesse en Palestine.
Oui.
Et de ses drames que nous racontons au quotidien, mais que là, vous réhumanisez, en quelque sorte.
Oui, et c'est la rencontre de ces deux parallèles qui vont vers cette interrogation qui doit normalement nous tarauder tout le temps. Mais que va-t-on faire de ce monde?
Oui.
Voilà.
Elle est là, la question du livre.
Oui.
J'étais palestinien, c'est-à-dire un drame potentiel, un deuil en sursis, un agneau sacrificiel, écrit Waïd, qui est donc ce moine, ce prieur de Bethléem.
Ouais, ouais.
C'est ainsi que vous le voyez, le peuple palestinien aujourd'hui.
Oui, absolument.
Yasmina Kadra.
Ouais, ouais, ouais. Surtout lorsqu'il n'y a pas une adhésion autour d'un espoir, d'une entente. Je vois pour moi, la Palestine, c'est comme ça que ça devrait rester, s'appeler. La Palestine, c'était le territoire de tous les êtres humains. Tous les gens qui voulaient se refaire une santé morale ou intellectuelle ou religieuse devaient aller. Il fallait pour l'humanité un endroit où toutes les nations peuvent se rencontrer, se réinventer, se reconstruire. Et c'est la Palestine. Ouais. Malheureusement, elle est devenue le territoire des convoitises les plus abominables. Et ça m'inquiète beaucoup.
Une terre sacrée devenue charnière, dit la tante de Waïd. Le malheur, rien que le malheur, de jour comme de nuit, les émeutes, la répression, la mauvaise foi, pendant que Dieu, pris en otage par les uns, inscrit aux abonnés absents pour les autres, ne sait où donner de la tête. Le bonheur existe, Waïd, mais il n'est pas ici, pas sur cette terre, jadis sainte et désormais maudite.
Ouais.
La Palestine est une terre maudite, Yasmina Kadra.
Ouais, absolument, oui. Si on n'a pas de respect pour la vie. Pour moi, mon principe, ça a toujours été comme ça. Il n'y a rien au-dessus de la vie. Ça, il n'y a rien, absolument rien. Ni l'idéologie, ni la patrie, ni enfin, tout ce qu'on raconte. Les causes suprêmes, c'est le droit à la vie. Et si on empêche un enfant de vivre, ou un bébé, d'éclore dans ce monde, c'est quelque part... On est sorti de son humanité.
C'est le naufrage de l'humanité que vous racontez.
Absolument, absolument. Et nous sommes en train d'assister aujourd'hui au naufrage de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement réagir. Et on ne le fait pas pour nous. Nous, on a été faillitaires. Mais on essaie au moins de sauver les meubles pour les générations de demain.
Merci Yasmina Kadra d'être venue ce matin. Le prieur de Bethléem s'est publié chez Flammarion. Avant d'être édité dans le monde, car je rappelle que vous êtes l'auteur francophone vivant le plus...